Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En continuant notre lecture du livre « D'un jardin à l'autre » de Frédéric Baudin, nous resterons dans le chapitre 10 et le chapitre 11. Nous sommes dans la partie « Jardin de la terre », commencée la semaine passée avec le verbe « cultiver ». Aujourd'hui, nous verrons les verbes « garder » et « gérer ». Reprenons notre lecture. Le jardin de la terre, chapitre 10, garder. Avoir tant risqué pour modeler la nature à notre idée et manquer finalement notre but serait le comble du ridicule. Telle est bien pourtant, semble-t-il, la situation. Rachel Carson, dans « Printemps silencieux ». Le réchauffement de la planète, l'amincissement de la couche d'ozone, la pollution des sols, de l'air et de l'eau, l'épuisement des ressources naturelles, la disparition des forêts et des zones humides, l'extinction accélérée des espèces vivantes, l'accumulation démentielle de déchets chimiques et nucléaires, notre planète est bien mal en point. Hubert Reeves, Mal de terre. Les questions écologiques ont pris une importance réelle dans le débat public vers le milieu du XXe siècle. Il y eut bien au siècle précédent quelques précurseurs aux visées idéalistes, naturalistes, philanthropiques et esthétiques. En Europe et en Amérique du Nord, influencés par l'attention nouvelle portée à la nature, grâce au romantisme et à l'essor des sciences naturelles, ils ont tenté de sauvegarder les animaux sauvages de toute atteinte ou exploitation par trop cruelle et mercantile. Ils ont également cherché à préserver les espaces ruraux, à défendre la qualité de la vie ou de l'air menacés par l'expansion des grandes villes industrielles. On leur doit la création des parcs nationaux, comme Yellowstone en 1872 aux États-Unis, du National Trust en Grande-Bretagne en 1895. Sous l'impulsion décisive des ornithologues, les premières lois sont promulguées pour limiter la vente d'oiseaux exotiques convoités pour leurs plumes chatoyantes. Enfin, on tente de réglementer la chasse des grands mammifères dans les colonies africaines et asiatiques. C'est aussi grâce à leurs efforts, bientôt exercés au sein d'organisations internationales comme l'Office international pour la protection de la nature, OIPN, créé à Bruxelles en 1928, que la législation se renforce pour protéger les oiseaux, les forêts ou la nature au sens large. Mais l'impact concret de ces mesures est entravé par les impératifs économiques et les difficultés politiques nées des grands conflits mondiaux. Ils restent faibles devant les avancées de la civilisation industrielle. Les défenseurs de la nature passent le plus souvent pour de doux rêveurs. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité prend brutalement conscience de la puissance de l'arme nucléaire. Pour la première fois dans l'histoire, une seule bombe est capable de détruire tout être vivant sur une surface et dans des proportions jusqu'alors inimaginables. Les effets radioactifs de cette explosion atomique demeurent plus longtemps sensibles que ceux des armes classiques. Bien après qu'ils ont été produits, ils poursuivent leurs ravages biologiques sur tous les jardins et les habitants de la Terre. L'arme redoutable s'est multipliée, quand bien même on a tenté d'en limiter la production en privilégiant certaines puissances politiques antagonistes mais raisonnables. Cette stratégie élective n'est cependant pas du goût de tous. Le club fermé, convoité des puissances nucléaires, tend à s'élargir, inexorablement, en dépit des traités et des mesures de non-prolifération. La paix entre les peuples, toujours précaire et sans cesse remise en cause ici ou là, est désormais suspendue à cette épée de Damoclès géante qui plane au-dessus de notre jardin et peut l'anéantir sur un simple coup de folie des hommes. Pour l'heure, on suppose et on espère que la sagesse l'emportera. L'intérêt des peuples à seulement survivre doit suffire pour décourager toute tentative de sortir cette épée redoutable et apocalyptique de son fourreau. C'est aussi à cette époque de l'après-guerre que l'on commence à souffrir à grande échelle et de façon plus sensible des conséquences de la pollution engendrée par l'exploitation industrielle des ressources naturelles. En 1960, Rachel Carson publie son ouvrage « Printemps silencieux » qui fait date dans l'histoire de l'écologie moderne. Elle n'est pas la seule à dénoncer avec vigueur, preuve scientifique indubitable à l'appui, les ravages de l'utilisation abusive de l'arsenal chimique mis à disposition des agriculteurs afin de réduire les populations d'insectes nuisibles et les plantes adventices. L'alerte est davantage relayée par les médias. Elle est enfin prise au sérieux. L'écologie devient une science reconnue et enseignée dans les universités. Elle est érigée bientôt en mouvement idéologique, avec son versant politique aux visées plus discutables lorsqu'elles sont teintées de contre-culture hippie, d'idées révolutionnaires ou de spiritualité diffuse, sectaire ou nébuleuse, et bientôt d'altermondialisme plus souvent rouge vif que vert tendre. On relève, en particulier, le rôle ambigu de la « deep ecology » portée par le courant syncrétiste du Nouvel Âge. Cette écologie des profondeurs emprunte aux religions païennes le culte de la déesse Gaïa, la terre érigée en idole pour justifier un écologisme équivoque. Les hommes et les femmes, dans leur ensemble, n'ont pas vraiment su anticiper la crise écologique. Dans un article de la revue Science, Lynn White Jr., The Historical Roots of Our Ecology Crisis, mars 1967, Lynn White Jr. affirme que les chrétiens portent une responsabilité toute particulière dans cette crise. Il est peut-être vrai que les chrétiens n'ont pas toujours réagi avec la rapidité que l'on était en droit d'attendre de leur part, sauf dans quelques cénacles théologiques ou œcuméniques où l'on s'était forcé, pour le moins, de réfléchir à ces questions. Mais le mouvement général dans tous les milieux, chrétiens ou non, s'inverse depuis les années 70. Les conférences internationales sur le thème de la protection de l'environnement débutent avec le sommet « Une seule terre » organisé par les Nations Unies à Stockholm en 1972. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, est alors créé afin de renforcer et coordonner les initiatives publiques et privées pour la protection de l'environnement au niveau mondial. Plusieurs catastrophes écologiques contribuent à éveiller les consciences. Les images de populations amaigries et décimées par les sécheresses récurrentes en Éthiopie et au Sahel ou par les inondations au Bangladesh émeuvent profondément les populations occidentales portées par l'euphorie des « 30 glorieuses », ces années d'expansion économique et de relative abondance. En 1976, les fuites mortelles de dioxine à Seveso en Italie suscite la méfiance devant l'industrie chimique. Ces craintes sont renforcées en 1984 par l'accident de Bhopal en Inde, où les émanations d'isocyanate de méthyle, MIC, font près de 3000 morts et plus de 50 000 victimes au total. En 1986, à la suite d'une erreur de manipulation sur le système de refroidissement testé, semble-t-il, à des fins expérimentales, survient l'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, ex-URSS. Un nuage toxique survole une vingtaine de pays européens, désarmés devant cet accident qui jette le discrédit sur l'énergie atomique, pourtant jugée indispensable pour répondre aux besoins énergétiques croissants de l'industrie et des populations. Les marées noires les plus spectaculaires, consécutives au naufrage du Torrey Canyon 1967, Amoco Cadiz 1978, Exxon Valdez 1989 ou de l'Erika 1999, ont fortement perturbé la faune et la flore marine. Elles ont également permis d'alerter l'opinion mondiale sur les risques de pollution. Mais les intérêts économiques demeurent souverains au détriment des impératifs écologiques et de la protection des richesses naturelles à moyen et long terme. C'est aussi pendant les années 70 que l'on découvre le fameux trou d'ozone. La communauté internationale réagit et interdit rapidement, dès 1979, en Amérique et en Europe du Nord, l'utilisation d'hydrocarbures fluorés, CFC, sous forme gazeuse ou liquide, responsable de cette dégradation de l'atmosphère. Cette alerte conduit les délégués internationaux réunis à Genève à se pencher plus particulièrement sur le thème des changements climatiques en collaboration avec l'Organisation météorologique mondiale, OMM, créée en 1947. Les rencontres se multiplieront ensuite dans le monde entier, à Vienne, Montréal, La Haye, Rio de Janeiro, New York, Kyoto, Buenos Aires, Marrakech et Johannesburg, etc., etc. En 1992, la conférence de Rio de Janeiro marque une étape importante. Elle rassemble 117 chefs d'État ou délégués des gouvernements de 178 pays. Ce sommet débouche sur la rédaction d'une convention cadre sur les changements climatiques, CCCC, aujourd'hui signée par près de 190 États. D'autres textes concerne plus spécifiquement la préservation de la diversité biologique. Les délégués rédigent l'Agenda 21, un programme dont les principaux objectifs pour le XXIe siècle sont la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la production de biens et de services durables et la protection de l'environnement. Des accords pour régler les problèmes de la désertification et sur l'aide au développement sont signés. Ils reprennent et formalisent plusieurs textes antérieurs pour définir le développement durable et jeter les bases d'un programme d'action urgente à entreprendre afin de préserver l'environnement à l'échelle mondiale. Le bilan du sommet mondial pour le développement durable qui se tient à Johannesburg en 2002 est dans l'ensemble positif, mais certaines ombres subsistent sur la mise en œuvre de ces textes fondamentaux. Les églises historiques ont suivi ce mouvement des conférences internationales en organisant un rassemblement œcuménique à Vancouver en 1983 sur le thème Justice, paix et sauvegarde de la création, sous l'impulsion du physicien allemand von Weizsäcker, En 1989, la Conférence des Églises européennes convoque près de 650 délégués à Bâle, en Suisse, toujours sur ce thème, qui sera repris en juin 1997 à Graz, en Autriche. Dans le même élan, le Réseau écologique chrétien européen, ECEN, European Christian Environmental Network, est mis en place en 1998. Il adresse régulièrement des appels aux églises chrétiennes et leur propose de célébrer un temps de la création avec des liturgies appropriées du premier dimanche de septembre au deuxième dimanche d'octobre. Les chrétiens évangéliques, réunis en 1987 à Villars, en Suisse, signent une déclaration sur l'entraide et le développement. Mais ce texte passe souvent inaperçu. Il fait suite à plusieurs articles sur le thème de l'écologie publiés dans la revue Ictus, notamment par le théologien Henri Blocher. L'ouvrage du penseur calviniste Francis Schaeffer, La pollution et la mort de l'homme, fut sans doute l'un des plus vigoureux plaidoyers en faveur d'une saine gestion des ressources et de la protection de la nature dans les milieux protestants évangéliques. F. Schaeffer, La pollution ou la mort de l'homme, Gebwiller, Ligue pour la lecture de la Bible, en 1974, publié déjà en anglais en 1970. F. Schaeffer répond en particulier à Lynn White Jr. en lui donnant d'abord en partie raison, pour mieux souligner ensuite que la foi chrétienne bien comprise et vécue avec authenticité conduit à garder la terre et non la détruire. Les philosophes Jacques Ellul et Jean Brun ont nourri cette prise de conscience des problèmes écologiques dans les églises protestantes. Ils critiquent le scientisme et le technicisme outrancier de nos sociétés modernes et dénoncent la vanité du salut qu'elles en attendent aveuglément. Les travaux du comité de Lausanne ont également rendu les évangéliques, depuis 1974, plus sensibles à la nécessité de préserver la création dans son ensemble. L'association Arocha, le rocher, créée en 1983 par le pasteur anglican Peter Harris, a inauguré un premier centre d'études et de recherche dans l'Algarve, au sud du Portugal, afin de mettre en œuvre un projet de protection de l'environnement dans une perspective chrétienne. Cette association, basée en Grande-Bretagne, est soutenue, depuis l'origine, par John Stott, pasteur éminent du courant évangélique de l'Église anglicane et ornithologue passionné. Ces dernières années, elle a pris une dimension internationale et regroupe actuellement une quinzaine d'associations sur plusieurs continents. Kenya, Liban, France, République tchèque, Canada, Inde, Pérou, etc. Coming for to carry me home, swing long, sweet chariot. Coming for to carry me home, swing long, sweet chariot. Coming for to carry me home, swing long, sweet chariot. Coming for to carry me home. Before I do, coming for to carry me home. But I'll tell all my friends I'm coming to you. Coming for to carry me home. Now, swing low, swing chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Come.
carry me home. Oh, coming for to carry me home. Coming for to carry me home.
Dans un souci de justice, le pape Jean-Paul II a exhorté les fidèles catholiques romains à s'intéresser aux questions de l'environnement et du développement durable. On retiendra cet extrait de la lettre encyclique Centesimus Annus, publiée à l'occasion du centenaire de l'encyclique Rerum Novarum. Je lis. L'homme saisi par le désir d'avoir et de jouir plus que par celui d'être et de croître, consomme d'une manière excessive et désordonnée les ressources de la terre et sa vie même. À l'origine de la destruction insensée du milieu naturel, il y a une erreur anthropologique, malheureusement répandue à notre époque. Il, l'homme, croit pouvoir disposer arbitrairement de la terre en la soutenant sans mesure à sa volonté, comme si elle n'avait pas une forme et une destination antérieure que Dieu lui a donnée, que l'homme peut développer, mais qu'il ne doit pas trahir. Au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui. Le patriarche orthodoxe Bartholomaios Ier et le pape Jean-Paul II ont signé ensemble, en juin 2002, la déclaration de Venise sur la protection de la création. Il relève que la conscience de la relation entre Dieu et l'humanité confère un sens plus complet à l'importance de la relation entre les êtres humains et l'environnement naturel, qui est la création de Dieu, et que Dieu nous a confié pour le garder avec sagesse et amour. La prise de conscience des problèmes écologiques s'est donc approfondie parmi les chrétiens dans leur ensemble. Elle s'est accompagnée, dans certains cas, d'une repentance pour les fautes commises dans le passé, pour les négligences dans ce domaine. Elle s'est traduite encore par des projets de protection active de la nature. Nul ne pourrait affirmer aujourd'hui que les églises chrétiennes ne se préoccupent pas de la préservation de l'environnement ou du développement durable. Mais il faut bien avouer que les membres des diverses paroisses et communautés chrétiennes n'ont pas toujours été informés ou enseignés sur ce sujet. La mise en pratique de ces mesures préconisées en haut lieu semble difficile sur le terrain, voire utopique et même inutile pour certains. Ils considèrent que les petites actions individuelles ou communautaires pour protéger l'environnement se perdent dans l'océan des problèmes écologiques. Quant aux nombreux chrétiens professionnels de l'environnement, ils saisissent souvent mal le rapport spécifique entre leur activité et leur foi en un Dieu créateur. D'après la Genèse, les hommes et les femmes étaient à l'origine invités à remplir, dominer et cultiver la terre en communion avec Dieu, c'est-à-dire avec l'amour, la sagesse et le discernement que le Seigneur leur inspirait. Il ne s'agissait pas pour eux d'exercer leur tyrannie sur la création, mais plutôt d'en prendre soin pour le bien de toutes les créatures et pour la gloire du Créateur. L'un des verbes traduits de l'hébreu par « dominer », « rada », est employé à plusieurs reprises dans la Torah ou Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible. Dans le Lévitique en particulier, il est rappelé aux descendants d'Abraham, dans le cadre des lois sur le travail domestique, qu'ils ne doivent pas dominer sur leurs frères de façon tyrannique, voire dans Lévitique les chapitres 25 et 26. Ces lois étaient données pour éviter les problèmes de l'esclavage. Les serviteurs juifs pouvaient être rachetés par un membre de leur famille. Ils avaient la possibilité de recouvrer la liberté lors de l'année sabbatique tous les 7 ans ou lors du jubilé tous les 50 ans. Le même verbe est employé par les prophètes comme Ézéchiel ou Jérémie, qui rappelle que le roi doit exercer sa domination pour le bien de son peuple, comme un berger envers son troupeau et non comme un tyran assoiffé de pouvoir. Ézéchiel 34, verset 4 ou Jérémie 5, verset 31. Si le roi domine, c'est surtout pour prendre la défense du faible, pour garantir les droits des plus démunis. S'il est une limite autorisée à dépasser, c'est bien de celle de notre inhumanité, de notre égoïsme et de notre insensibilité pour rejoindre ceux qui sont limités par leur souffrance et leur dénuement. Jésus donne l'exemple à ses disciples. Le roi des rois revêt la condition d'un serviteur. Il leur lave les pieds et leur enseigne ainsi que toute domination commence et se prolonge par le service. En hébreu, les verbes cultiver, avad, et garder, samar, ont aussi une connotation religieuse. On garde les commandements de Dieu, et le verbe cultiver ou travailler peut avoir le sens de rendre un culte, servir Dieu. Ce verbe est employé pour désigner l'activité des Lévites dans le tabernacle dressé dans le désert et plus tard dans le temple de Jérusalem. Les prêtres étaient tenus de garder le sanctuaire et notamment de préserver la pureté du lieu saint de toute souillure profane. L'autorité des êtres humains délégués par Dieu, leur vocation, remplir et cultiver la terre, identifier, nommer et protéger les êtres vivants. Leur domination ainsi définie implique également leur responsabilité devant Dieu. La nature porte l'empreinte du Créateur, suggère l'apôtre Paul au chapitre de la lettre aux Romains, où il fait écho à de nombreux psaumes et d'autres textes de l'Ancien Testament. Cette révélation de Dieu est partielle, mais les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu peuvent au moins reconnaître dans la nature la marque de la divinité. Cela les rend même, insiste l'apôtre, inexcusables de ne pas avoir rendu leur culte au seul vrai Dieu. Cette révélation fonde donc leur responsabilité d'une certaine manière. Elle dévoile leur faute devant Dieu. Ils se sont tellement fourvoyés qu'au lieu de travailler pour servir le Créateur, ils ont servi la créature. Ils lui ont rendu un culte. Le renversement est alors complet. Au lieu de dominer, poursuit saint Paul, sur les poissons, les oiseaux et les reptiles, les animaux de tous les milieux, les hommes et les femmes en sont réduits à adorer ces créatures, à les diviniser. Les vices, les péchés mentionnés par l'apôtre dans la suite de sa lettre aux Romains sont éloquents. Ils trahissent la prétention de l'être humain à la démesure, à franchir les limites de sa condition, tant sur le plan spirituel que moral et pratique, dans tous les domaines familial, sexuel, social et économique. Or, c'est bien dans le respect des limites fixées par Dieu que se trouve, sans aucun doute, une solution pour résoudre le problème de l'exploitation démesurée de la création, pour éviter la divinisation de la terre, le culte des idoles dénoncé par les prophètes et les apôtres. En voulant s'affranchir de Dieu, en servant la créature au lieu du Créateur, l'homme qui se croit sage se conduit en réalité comme un insensé. Il est aveuglé par ses désirs excessifs et ses ambitions chimériques, par sa présomption et son arrogance. Les êtres humains prétendent mettre en œuvre leur raison et leur vision mécaniste d'un monde sans Dieu, où ils ne voient qu'un enchaînement de causes et d'effets qu'il leur appartient de comprendre pour mieux les maîtriser. Mais leur libido débridé, leur volonté de dominer la création afin d'en tirer le plus grand bénéfice et le plus immédiat, leur cupidité idolâtre les conduisent à appauvrir cette création de façon aujourd'hui alarmante, à la polluer d'une manière parfois irréversible à court ou moyen terme, à la modifier, notamment sur le plan génétique, sans toujours maîtriser ces changements. Ces constats sont abrupts, les conséquences tragiques. Qu'il est difficile, l'art de bien gérer le jardin de la terre. Chapitre 11. Le jardin de la terre, géré. L'homme appartient à cette création, mais il y porte une présence de Dieu. On dira souvent, alors qu'il est gérant de la création, pour Dieu. Il est lieu tenant de Dieu dans la création. L'homme ne doit pas gérer cette création pour la puissance et la domination, mais en tant que représentant de l'amour de Dieu. Jacques Ellul, Le rapport de l'homme à la création. Un lien étroit, étymologique, unit les deux termes écologie et économie. L'un et l'autre se rapportent à la gestion de la maison, oikos, de la cité ou du pays, de la nature. Les définitions données par Le Robert sont explicites. L'écologie est l'étude des milieux où vivent les êtres vivants, ainsi que des rapports de ces êtres entre eux et avec le milieu. L'économie est la science qui a pour objet la connaissance des phénomènes concernant la production, la distribution et la consommation des ressources, des biens matériels dans la société humaine. Économie et écologie ne font cependant pas toujours bon ménage. Il est même fréquent que l'incompatibilité soit complète. Les sommets internationaux sur le thème du réchauffement climatique de notre planète en donnent une preuve déconcertante. On ne peut faire l'économie de l'écologie, mais cette dernière a un coût bien réel. Que faire donc pour réconcilier ces deux termes devenus trop souvent antithétiques? Gare aux solutions simplistes que nous proposons parfois pour résoudre les problèmes du monde entier. La réalité est si complexe que notre modeste essai sur le thème du jardin dans la Bible paraît dérisoire lorsqu'il aborde ces problèmes. Quoi qu'il en soit, il nous faut nourrir cette réflexion sur la suggestion, sur la gestion des jardins de la terre, dont nous tenterons d'esquisser ici quelques principes. La société industrielle a surexposé les ressources naturelles de la création. Cette attitude, lorsqu'elle est motivée par le seul profit érigé en idole impitoyable, s'accorde rarement avec les préoccupations d'ordre écologique. On a enregistré malgré tout certains progrès ces dernières années. Des mesures ont été prises pour mieux gérer les ressources, limiter la pollution et recycler les produits de consommation courante comme le papier, le plastique ou l'aluminium. Le bilan, loin d'être négatif, n'est cependant pas à la hauteur des espérances. Les pays pauvres, où la nature est fragilisée, sont soumis à une dégradation écologique d'autant plus intense et irraisonnée qu'ils sont souvent dépourvus de réglementation en matière de protection de l'environnement et d'autorités intègres ou respectées pour exécuter les lois. Plus d'un milliard d'habitants n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Les populations les plus démunies migrent en masse dans des mégalopoles où elles s'entassent dans des quartiers insalubres et des habitations de fortune. Dans ces villes, comme dans les campagnes, l'eau impropre à la consommation tue chaque année ou contamine à long terme des millions d'individus, dont une large proportion d'enfants. Les touristes qui visitent certains de ces lieux augmentent le volume des déchets non traités lorsque les structures sont peu adaptées à leur accueil. Ces pays sont par ailleurs soumis à l'appétit de grands groupes industriels étrangers plus soucieux de rentabilité excessive que de sauvegarde de la création. Les multinationales peuvent toutefois contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les pays les plus défavorisés. Les infrastructures mises en place, les salaires versés aux ouvriers et aux cadres, l'accès à l'éducation pour les garçons et les filles figurent sans aucun doute parmi les facteurs positifs du développement. Dans nos pays occidentaux, de nombreux cours d'eau demeurent menacés par des agents chimiques indésirables qui ont pourtant rendu service aux agriculteurs soucieux de protéger leur culture ou d'améliorer les soins apportés au bétail, aux industriels qui les fabriquent ou les utilisent, aux foyers où l'on se sert, entre autres, d'une lessive efficace pour laver le linge ou la vaisselle. L'accès à l'eau potable est toujours le privilège, de plus en plus coûteux, de nos pays industrialisés. Mais le pompage intensif, notamment par les agriculteurs, 70% de la consommation d'eau, la salinisation par irrigation mal conduite et la pollution de nos nappes phréatiques risquent de le remettre rapidement en cause. Au cœur des villes, les hôpitaux offrent à eux seuls toute une gamme de déchets dangereux qu'il faut collecter, détruire ou recycler avec le plus grand soin. Le problème des déchets nucléaires n'a toujours pas été résolu de façon satisfaisante et l'ombre d'un danger lié à leur stockage plane sur les générations actuelles et à venir. Les panneaux publicitaires aux couleurs criardes se multiplient et enlaidissent les faubourgs comme les centres urbains. La pollution visuelle, au même titre que celle de l'ouïe ou de l'odorat, n'est plus une vue de l'esprit. Des bruits insupportables et des odeurs suspectes rendent la vie citadine souvent pénible. Qui n'a pas été contrarié tandis qu'il marchait sur une petite route déserte de campagne ou de montagne, par le souffle d'air nauséabond et sonore d'une seule voiture? C'est alors que nous prenons conscience de la dégradation de l'air et de notre odorat, d'ailleurs, si l'on sait que des milliers, voire des dizaines de milliers de voitures parcourent chaque jour les rues de nos cités. La pollution de l'air est préoccupante dans les grandes villes saturées par les fumées industrielles ou domestiques, par les gaz d'échappement des automobiles ou des chaudières. Une procédure d'alerte et d'information du public est déclenchée lorsqu'on enregistre des pics de pollution atmosphérique au dioxyde d'azote, à l'ozone ou au dioxyde de soufre. Ces molécules inopportunes contribue au phénomène des pluies acides qui menacent les cultures et les forêts, ajoutées au dioxyde de carbone, CO2 ou gaz carbonique, issus de la combustion des énergies fossiles classiques, pétrole, gaz, charbon, elles renforcent l'effet de serre et favorisent le réchauffement climatique. Si dans le chapitre 10, Garder le jardin de la Terre, nous avons dit qu'au 19e et au 20e siècle, une attention nouvelle est portée à la nature en général, c'est un peu plus tard que les choses se passent. Le chapitre 11 que nous avons commencé ce jour, nous le continuerons la semaine prochaine, car il y a le mot « gérer » et nous dirons plus tard, dans nos prochaines lectures, certaines vérités. N'oubliez pas votre émission « Je lis pour vous » sur Radio Alliance Plus, mais aussi faites connaissance avec la brève de « Je lis pour vous ». Écoutez le samedi à 7h45 ou retrouvez en podcast sur le site radioallianceplus.fr. Ce que signifient ces expressions telles que jouer son va-tout ou battre sa coulpe. Bonne écoute à tous!